Et de vous avoir avec nous ce matin. Et pour les frères et sœurs qui sont là régulièrement aussi, on est content de vous avoir, de partager ce temps ensemble. Amen. Donc, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, on est en train de regarder une série sur l'espérance du croyant que j'ai intitulée « Qu'attends-tu de ton avenir? » Puis, tantôt, on chantait un chant qui parlait du désert, qu'on peut traverser des déserts dans notre vie. Qui ici a déjà passé une période comme ça, hein? Pas mal tout le monde. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on est dans un désert? On peut perdre l'espérance, on peut perdre l'espoir. Qu'est-ce qui va nous aider à traverser ce désert-là? C'est d'avoir une espérance, c'est d'avoir un avenir, d'avoir quelque chose sur lequel on compte, qui s'en vient, qui est meilleur, n'est-ce pas? Quand l'être humain ne peut pas vivre sans espérance, c'est impossible. Mais l'espérance que l'être humain se donne à part de Dieu, ben c'est souvent déçu, n'est-ce pas? C'est des espérances qui sont incertaines, qui sont aléatoires, qui même peuvent être complètement illusoires. Ces espérances-là. Pourquoi? Parce que l'être humain ne connaît pas l'avenir et ne contrôle rien de l'avenir. Mais nous avons un Dieu au ciel qui nous donne une espérance certaine. Et voici notre verset thème pour toute la série. Et comme je fais d'habitude, je vous invite à réciter avec moi ce verset clé-là. Allons-y, Romains 15, 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est tellement un beau verset, n'est-ce pas? J'espère que vous l'avez appris maintenant par cœur. Moi, je le récite souvent. Quand je suis comme dans mon lit, je suis entre deux, là, je récite ce verset-là et ça remplit justement mon cœur de joie de savoir que c'est Dieu qui donne l'espérance. Si tu es ici ce matin, là, écoute ça. Dieu veut combler ton cœur de joie et de paix, comment? En te donnant une espérance, mais une espérance qui est solide, qui est certaine. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'avenir et Dieu contrôle l'avenir. Et Dieu est bienveillant. Amen. Amen. Fait que c'est Dieu qui est l'auteur de l'espérance. C'est pas nous. Et si c'est Dieu qui est l'auteur, ben c'est certain d'arriver. Et j'aime bien le déborder, hein? Le cœur déborde d'espérance. Puis à un moment donné, on a fait le lien avec le passage dans, je pense que c'est Pierre, mais en tout cas, je peux me tromper là-dessus. Il dit, soyez toujours prêts à donner une raison de l'espérance, hein, qui est en vous. Donner une raison de l'espérance, ça veut dire quoi? Les gens vont dire, pourquoi tu es toujours, t'es toujours joyeux? Pourquoi, c'est quoi là? Mais si j'en ai pas d'espérance, ils ne pourront pas me demander la question, là. Il faut que l'espérance remplisse mon cœur puis que ça déborde pour que les autres disent, « Hey, t'as une espérance, c'est quoi ton affaire? » Hein? Pas vrai? Fait que si on veut que les gens se demandent pourquoi on a une espérance, il faut que notre cœur déborde d'espérance. Faut pas juste qu'on ait un petit peu. Faut que ça déborde d'espérance. Et là, ils vont dire, « Mais voyons donc. » Hein? Amen? OK, c'est beau. On continue. Fait que, avant d'aller là, juste pour ceux qui n'étaient pas avec nous, j'ai divisé la série en trois sections. Fait que la première section, c'est l'espérance d'avoir un corps ressuscité. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ vont ressusciter et leur corps va être transformé. Paul dit, la mortalité va revêtir quoi? L'immortalité. La corruptibilité va revêtir l'incorruptibilité. Ce qui est semé faible va sortir fort. Ce qui est semé un corps physique va sortir un corps spirituel. Nous allons avoir un corps semblable, écoutez ça, au corps du Christ ressuscité. Wow! et un corps qui est imperméable aux effets du péché, de la maladie et de la mort. Imperméable. Incroyable. Et un corps fort, un corps qui va être capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Non pas pour se péter les bretelles, pour être des super-héros, non, mais pour servir dans le règne de Christ qui s'en vient. Et ça, ça a introduit la deuxième section, l'espoir de recevoir un royaume, d'hériter d'un royaume. Fait qu'on est dans cette deuxième section-là, l'espoir, l'espérance de recevoir un royaume. Puis, on a vu, il y a des passages clés qui parlent des choses à venir, commençant par Daniel 3. Et dans Daniel 3, c'est un passage fondamental qui jette les bases de toute l'espérance qui est à venir et sur laquelle est construite toute notre compréhension de l'eschatologie des choses qui sont à venir. Okay? C'est quoi dans Daniel 3? C'est le rêve de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il a fait un rêve et là, il ne savait pas c'était quoi. Et Daniel lui révèle, Dieu lui révèle le rêve. Et c'est la suite des règnes des hommes, la suite des dynasties des hommes depuis qu'il y a eu coupure de la dynastie de David. OK? Fait qu'à ce moment-là, il y a eu une coupure, il n'y a plus de roi qui règne sur Israël. À ce moment-là, la Bible appelle ça le temps des païens ou le temps des nations. OK? Puis dans ce temps-là des nations, il y a eu des royaumes qui avaient l'autorité sur la Palestine, l'autorité sur le peuple d'Israël. Il y a eu d'autres royaumes à part ceux-là, comme la Chine par exemple, mais il n'y avait pas rapport avec Israël. Ces royaumes-là, c'est une série de royaumes que Dieu a révélés qui allaient se succéder en commençant par Babylone, après ça, Médo-Persie, après ça, la Grèce, après Rome. Et finalement, ça se termine avec une coalition qui se forme des ruines de l'ancien empire romain, et qui est une forme de coalition. Les orteils de la statue, c'est de le fer mêlé avec l'argile. Et finalement, à la fin de son rêve, il y a une grosse pierre qui arrive de nulle part, qui frappe la statue à ses pieds, qui pulvérise la statue. La statue s'en va comme une balle de foin au vent. Elle disparaît complètement. Et cette pierre-là, qu'est-ce qui arrive de cette pierre-là? Elle devient une grosse montagne qui remplit toute la terre. Et on sait, c'est qui ça? C'est Jésus qui vient pour anéantir toutes les règnes qu'ils n'ont jamais eu et remplacés. Et sa venue, et on a regardé les caractéristiques de sa venue, mais une des caractéristiques, c'est que c'est soudain. Sa venue est soudaine. Donc, c'est une des choses qui distingue entre le Christ et l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, lui, il vient et il rentre dans le système de l'Empire. Il rentre dans le système, il transforme et il s'attire toute la gloire. Il veut être Dieu, là. Mais ce n'est pas ça la venue de Christ, là. La venue de Christ est soudaine. Elle arrive, elle détruit tout ce qu'il y a avant, tout ce système-là politico-religieux. Alors, c'est une des caractéristiques qui peut nous dire, bien, ça, c'est vraiment Christ, ça, c'est vraiment pas Christ. Comme Christ a dit, plusieurs viendront en mon nom, voici, je suis là. Non, il dit, ça ne passera pas de même. Fait que ça, ce passage-là est fondamental, on l'a vu. Puis quand Christ vient détruire le système et celui qui est au-dessus, on va regarder ça encore ce matin, eh bien, il établit un règne qui dure 1000 ans. Et on a ça en Apocalypse chapitre 13. Un règne qui dure 1000 ans. Donc, il y a l'âge de l'Église. Maintenant, on est dans l'âge de l'Église qui est le temps des païens, le temps des nations. Christ revient pour ses croyants. Puis on a dit, il y a différentes positions. Est-ce qu'il vient au début, avant la tribulation, pendant la tribulation ou à la fin? Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Okay? Je ne veux pas commencer à rentrer dans ces détails-là. Mais peu importe quand est-ce qu'il revient pour nous, rendu ici au millénium, ça c'est clair, comme l'eau de cristal, Jésus revient, il détruit, il combat l'Antéchrist, il détruit l'Antéchrist et il établit un règne qui va durer 1000 ans. Donc, ce matin, on regarde encore le règne millénaire de Christ. Fait qu'on a vu tout ça à date. La dernière fois, on était dans Apocalypse chapitre 19. On a vu que Jésus arrivait comme un cavalier sur un cheval blanc. Il juge avec équité, il combat pour la justice, ses yeux sont flamboyants, purs, il perce tout, il voit tout, rien ne lui est caché. Sa tête est couronnée de plusieurs couronnes, symbolisant qu'il vient régner sur toutes les nations. Les nations sont encore là dans le règne millénaire. La terre est encore là, mais la terre est renouvelée. La terre, il y a la paix à cause que Christ vient régner. Et c'est à ce moment-là que les fêtes du péché qui a corrompu la terre et le jugement que Dieu a frappé la terre est renversé. C'est là que sa victoire à la croix est appliquée à la création. Dans Romains 8, on voit ça, toute la création soupire après la venue du Christ parce qu'elle est soumise à quelque chose qui est une souffrance. Et nous-mêmes, on languit, hein? C'est marqué « nous-mêmes ». On soupire, on pousse des gémissements en attendant ce jour-là de la rédemption finale, le rachat final. Bon. Alors, on voit que Jésus revient, il défend son peuple, il est suivi des armées célestes, ça c'est dans Apocalypse 19. De sa bouche, il y a une épée aiguë, tranchante, c'est la parole de Dieu. Il n'a qu'à prononcer les mots et le mal est détruit. Il frappera les nations qui sont liées avec l'Antéchrist. Il dirigera, il régnera avec un sceptre de fer. On a vu c'était quoi le sceptre, c'est le symbole de l'autorité. Jésus-Christ vient comme autorité suprême de tous les temps, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et personne ne peut s'élever au-dessus de lui. On a vu la dernière fois que la bête ou l'Antéchrist et le faux prophète sont capturés et ils sont directement envoyé en enfer. Et à partir de ce moment-là, le règne millénaire de Christ sera caractérisé par la justice, une justice immédiate qui est appliquée immédiatement. Le péché ne pourra pas flamber, le péché ne pourra pas prendre des proportions comme on le voit aujourd'hui. Il va y avoir encore le péché parce qu'il y aura encore des êtres humains sur la terre. Mais elle ne pourra pas se manifester parce qu'il y aura une justice immédiate. Le règne millénaire, on l'a vu, ça va être caractérisé par une nature restaurée, par une paix et harmonie entre les nations, et finalement par l'espérance, parce que les nations espéreront en lui, qui est cité par Paul dans Romains 15, 12, le verset juste avant celui qu'on vient de réciter. Donc, le règne millénaire de Christ sera un temps de paix et d'harmonie, puisqu'il débutera par la défaite de l'Antéchrist et l'enchaînement de Satan. La dernière fois, on a fait l'étude sur qui est l'Antéchrist. Je ne le referai pas, je ne répéterai pas tout ça. Je vous invite à aller écouter sur le site l'enseignement là-dessus. Mais ce matin, on va regarder l'autre aspect du début de ce millénaire, c'est que Satan sera enchaîné pendant 1000 ans au début de cette période. Fait que, là, je vous invite à regarder avec moi dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1. Je lis dans la version Sommaire. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan, il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les armes de ceux qu'on avait décapités, à cause du témoignage rendu par Jésus, à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, l'Antéchrist, ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront près de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour combattre en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu, Jérusalem. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompa fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il rejoignit la bête et le faux prophète et ils subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui est écrit dans ces livres, les premiers livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qui les détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis, la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Prions. Notre Dieu, roi suprême de l'univers, nous fléchissons le genou devant toi ce matin, car tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être aimé, car tu es bon, tu es fidèle, Père. Et tu nous donnes une espérance vivante pour nous aider à cheminer dans cette vie à travers les déserts de la vie. Père Tout-Puissant, on veut entendre ta voix seule ce matin. Nous repoussons en ton nom, Jésus, toute autre voix, la voix de Satan, la voix de ce monde, la voix de notre propre nature humaine. On veut entendre ta voix seule qui nous parle. Oui, Père, révèle-nous ta personne. Par ton esprit, donne-nous sagesse et révélation pour te connaître. Et oui, Seigneur Dieu, tu es l'auteur de cette espérance et tu veux nous la donner. Donc, Seigneur, je veux prier que chacun de nous, on puisse quitter ce lieu ce matin ayant reçu cette espérance, ayant saisi cette espérance davantage, Seigneur, pour la gloire de Jésus le Christ, bien-aimé. Amen. Donc, on a vu il y a 2 semaines que Jésus revient, il combat l'Antéchrist, il bat l'Antéchrist, Et l'Antéchrist et le faux prophète sont envoyés directement dans les temps de feu, dans Apocalypse 19. Ils n'ont pas besoin d'attendre le jugement final qu'on vient de voir dans Apocalypse 20. Mais au début du chapitre 20, on voit quelque chose de curieux. Satan est saisi, on se saisit de Satan. C'est un ange qui descend du ciel, qui a une clé, une grande chaîne, il saisit Satan, il l'enchaîne, il le jette dans un abîme et il barre la porte. C'est vraiment quelque chose de particulier qu'on voit ici. C'est quel ange qui saisit Satan? On ne sait pas. Peut-être Michael, Michel, mais pas, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on apprend sur Satan dans ces versets-ci? Premièrement, c'est mentionné qu'il est le dragon. Le dragon en grec, ça vient du mot grec « dracon », là, c'est très semblable, qui fait référence à un monstre des mers. Les mers dans la Bible, là, souvent, vous allez voir ça si vous faites attention dans vos lectures, les mers, ça représente, ça symbolise les nations. Les nations, les peuples s'agitent comme les vagues de l'océan, comme la mer est agitée. le regard de Dieu sur l'humanité, c'est comme une mer agitée. C'est turbulent, ça n'a pas de direction, c'est fluide. Et le monstre qui agite les eaux, c'est qui? C'est le dragon. C'est Satan. Voyez-vous? Dans l'Ancien Testament, l'équivalent, c'est le Léviathan. Vous avez peut-être vu ce mot-là. Léviathan, c'est le même... ça vient du même mot, là. C'est en grec, c'est dragon. En hébreu, c'est Léviathan, le monstre des mers. On voit aussi qu'il est appelé ici le serpent ancien. Le serpent, celui du Jardin d'Éden, qui a séduit les êtres humains en leur faisant miroiter qu'ils pouvaient accéder à des connaissances, une puissance, à devenir des dieux. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société? N'est-ce pas ça? C'est ça qui est véhiculé par les films. Hey, tu vas devenir un super-héros. Tu vas évoluer, tu vas avoir des capacités, des connaissances. Ou bien dans les religions du Nouvel Âge, tu vas accéder à une connaissance. Et tu vas être illuminé. Tu vas avoir des choses que tu ne peux pas t'imaginer. Et c'est le même, c'est depuis le début que Satan fait ça. Il fait miroiter aux êtres humains des choses, des capacités, des connaissances. Viens voir. Tu vas aimer ça. Tu vas devenir quelqu'un, là. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de tomber dans un guet-apens. Donc, le serpent ancien n'a pas changé depuis le Jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il l'appelle le serpent ancien, qui est aussi le diable. Il est appelé également le diable. Le mot grec, c'est diabolos, qui signifie diffamateur ou calomniateur. Qui est-ce que le diable aime calomnier? Dieu. Il aime calomnier Dieu. T'as-tu vu qu'est-ce que Dieu a permis dans ta vie, là? Regarde ce qui vient d'arriver, là. Comment un Dieu aimé a pu laisser faire ça, là? Comment un Dieu aimé a pu laisser mourir ton enfant écrasé par une auto? On a vu cette semaine, hein, dans un camping, petit bambin, madame qui se promenait en quatre roues. Elle n'a pas vu, je ne sais pas c'était quoi les détails, mais elle a écrasé le bambin de moins de 2 ans, je pense. T'as-tu vu ce que Dieu a permis dans ta vie? T'as-tu vu? Tu veux croire en Dieu après ça, là? C'est la faute à Dieu. C'est Dieu. Qui calomnie comme ça? C'est Satan. Il diffame aussi les chrétiens. Il veut faire porter à Dieu et aux chrétiens tous les malheurs des êtres humains. Hein? Quand Rome a brûlé, qui a été blâmé pour ça? Les chrétiens ont été blâmés pour ça. Et surprenez-vous pas qu'à l'avenir, nous allons être de plus en plus visés, ciblés. Okay? Parce que Satan, c'est ce qu'il fait. Il est diffamateur, il est calomniateur, c'est un nom qu'il porte, diabolos, c'est ça que ça veut dire. Et le titre Satan, ça aussi c'est intéressant, j'ai appris quelque chose, Satan vient du terme hébreu qui veut dire attaquer, opposer. Il y a un verbe dans l'hébreu, Satan, c'est un verbe. Là, on a pris le verbe puis on l'a transformé en nom. Donc c'est l'attaquant, l'opposant des êtres humains, l'adversaire juré de Dieu et de toutes les créatures de Dieu. Son but, c'est de détruire la création de Dieu ou la tordre, la déformer, la disfigurer. Tout ce qu'il peut faire pour attaquer Dieu, attaquer les créatures de Dieu, s'opposer à Dieu. Et on lit dans Romains 12, 10 que Satan est l'accusateur des frères. Hein? Il est l'accusateur des frères. Et dans Apocalypse 12 aussi, 12-10, je vais vous faire la lecture. Apocalypse 12-10, c'est écrit. « Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. » Fait que, on voit ça dans le livre de Job. Hein? Vous vous rappelez l'histoire de Job? L'histoire de Job, on présente Job, un homme droit, un homme intègre, un homme prospère, un homme vraiment là. Puis là, c'est comme si on ouvre une porte devant le ciel et puis on voit ce qui se passe. C'est marqué que tous les fils de Dieu viennent devant Dieu et on pense que c'est des anges. Puis Satan aussi se présente. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse Job. Dieu dit, t'as-tu vu? Dieu, il tend un piège. C'est Dieu qui a tendu le piège à Satan, là. Il s'est fait jouer un tour, Satan. Parce que Dieu aurait pu rien dire. Mais c'est Dieu qui a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? » Oh, oh, oh là là! Et c'est comme si il a lancé un appât à Satan, là. « As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, juste et bon. Ah oui, Satan, ah oui, ben oui, c'est sûr, on sait bien, hein? C'est juste intègre, mais il fait ça parce qu'il sait que s'il fait ça, tu vas le bénir. » Fait que dans le fond, il ne t'adore pas pour qui tu es, là. Tu ne mérites pas d'être adoré, voyons donc. Il t'adore par intérêt. Il a de l'intérêt. Il a une motivation secrète. C'est de se faire bénir par toi. C'est pour ça qu'il t'adore, là. S'il savait que tu ne te bénirais pas, il arrêterait de t'adorer. Ben là, Dieu dit, OK, ben vas-y, enlève tout ce qu'il y a. Enlève-y tout ce qu'il y a. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu dans le livre de Job. Mais c'est pour dire que le passage qu'on vient de lire dans Apocalypse 12, on voit que c'est vrai. Il se tient devant Dieu jour et nuit pour accuser les frères et sœurs devant Dieu. Ah oui, regarde ce qu'a fait Brian encore. Pif, tu vas le laisser entrer dans ton ciel, hein? Mais c'est qui est là pour nous défendre? C'est Jésus. Père, moi, j'ai payé pour ça. C'est déjà payé. Il est notre défenseur. Il est notre avocat devant le Père. On a besoin parce que l'accusateur, il est là constamment en train de nous accuser. Et surprenez-vous pas que dans votre tête, vous pouvez avoir des voix qui vous accusent. Ça vient d'où? Ça peut venir de Satan. Des fois, c'est nous-mêmes, là. Mais ça peut venir de Satan, dans le but de nous décourager, de nous discréditer, de nous faire perdre notre joie, de nous faire perdre notre puissance. C'est ça qu'il fait, Satan. Bon, ici, dans Apocalypse 12, si vous êtes tourné, on voit quelque chose d'intéressant. On ouvre une petite parenthèse. On apprend qu'il y a une guerre dans le ciel, pas sur la terre, là, dans le ciel, entre Satan et ses anges, et Michael ou Michel et ses anges. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que Michel et ses anges l'emportent sur Satan, et il est précipité au verset 7. Alors une bataille s'engagea dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Donc on comprend que les démons, c'est des anges déchus. Mais le dragon ne le remportait pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, les anges furent précipités avec lui. Donc, ce qu'on comprend là, avec Job et ce qui est marqué là, c'est que Satan s'est révolté contre Dieu, il a entraîné des anges avec lui. Ça, on a d'autres passages pour confirmer ça. Mais ils avaient comme toujours accès à la présence de Dieu, bizarrement. C'est comme bizarre. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Satan peut se présenter devant Dieu? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais ils ont encore accès, même aujourd'hui. Bon. Mais là, ici, là, à un moment donné, ils sont jetés hors du ciel. Ils sont bannis du ciel. Ce n'est pas arrivé encore. Satan nous accuse encore devant Dieu aujourd'hui. OK? Mais à un moment donné, il va y avoir une guerre dans le ciel et ils vont être bannis. Satan va être banni, il ne pourra plus avoir accès. Et là, il va être fou de rage. Il va être fou de rage. Regardez ce qui est marqué ici, là. Verset 12. Réjouis-toi donc au ciel et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mère, le diable est descendu vers vous rempli de rage. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Wow! Malheur à vous. Malheur. Ça va mal aujourd'hui, là? Mais Satan n'est pas en colère comme il va l'être. Ouf! Ouf! Et là, il se lance à persécuter les Juifs et les chrétiens. Et ça, ça démarque le début de la grande tribulation, la période de la grande tribulation. Mais notre but, ce n'est pas de faire une étude sur Satan ce matin, ni sur la grande tribulation. Notre but, c'est d'étudier l'espérance que Dieu veut nous donner, veut nous révéler, OK? Donc, retournons dans Apocalypse 20. Si on retourne dans Apocalypse 20, fait que là, Satan est banni du ciel, il s'en vient sur la terre, c'est la tribulation qui commence, une période affreuse. Là, l'Antéchrist est révélé, il est habité par Satan. Il y a une période de jugement, etc., que Dieu fait tomber sur la terre. Une période extrêmement, extrêmement difficile que la Bible dit, tu ne veux pas être là. C'est la pire période de toute l'histoire de la terre. Mais à la fin de cette période-là, c'est là que Christ revient. Il combat l'Antéchrist. On l'a vu, il défait l'Antéchrist. Et maintenant, le serpent aussi est pogné par un ange puissant, peut-être Michael. Pogné, comme on a vu, il est enchaîné, il est jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, et là débute le règne millénaire de Christ. Et c'est pour cela aussi que c'est un temps de paix et d'harmonie, parce que c'est marqué, il ne peut plus agiter les nations comme avant. Regardez ce qui se passe dans l'Ukraine, Russie, là. Il y a quelqu'un derrière ça, là. Il y a quelqu'un qui agite les eaux, là. Il y a quelqu'un qui fait croire des mensonges. Les gens croient des mensonges. Et il y a une puissance derrière ça. Il y a une puissance. Mais quand Satan va être lié, wow! Il n'y aurait plus cette agitation-là. Gloire à Dieu. Mais c'est quoi l'abîme? Donc, si vous êtes dans Apocalypse 20, on a lu que au verset 2, il saisit le dragon, cet ange, il l'enchaîne pour 1000 ans et il le précipite dans l'abîme. C'est quoi ça, l'abîme? J'ouvre une parenthèse, OK, encore une fois ici. Bien, regardez dans 2 Pierre 2, si vous voulez avec moi, 2 Pierre 2. 2 Pierre chapitre 2. Pierre en parle. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Pierre est en train de parler, là, du jugement qui est à venir, du jugement particulièrement des faux prophètes, OK? Puis il dit au verset 4, « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. » Wow! OK. Ici, on comprend qu'il y a un abîme et qu'il y a des anges qui sont dans l'abîme. Pourquoi? C'est Dieu qui les a... Il était tellement méchant là, que Dieu a dit, « Non, cela, je ne tolère plus ça. Vous êtes enchaînés. Je vous envoie dans l'abîme jusqu'au jugement final. » C'est quand que c'est arrivé, ça? Bien, on ne sait pas. ça se peut que ce soit dans la Genèse, lorsque il se passe des choses bizarres dans Genèse, les premiers chapitres, là. Mais bon, ce n'est pas mon but d'aller dans les détails là-dessus. C'est juste de dire qu'à un moment donné, Dieu a dit à ces anges-là, « Non, là, c'est assez. Je vous enchaîne et vous êtes en abîme. » OK, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est actuel? Bien oui, regardez dans Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8, au verset 31, c'est quoi Luc 8? C'est Légion, hein, l'homme qui est possédé par plusieurs démons. Jésus chasse les démons, et là, les démons sont là, et puis ils font quoi? « S'il te plaît, Jésus, envoie-nous pas dans l'abîme! » Envoie-nous pas dans l'abîme. » Et ces démons supplièrent Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Fait que Jésus dit, « OK, il y a un troupeau de porcs là-bas, vas-y, allez-y. » Fait que l'abîme, c'est une place réelle. C'est comme un cachot pour les démons. Et ici, dans Apocalypse 20, c'est qu'on voit que finalement, Dieu met la main sur le collet à Satan puis dit, « Toi, là, dans le cachot, 1000 ans. » Dans le cachot. Et Satan est enchaîné, est en prison pendant 1000 ans dans le cachot. Ésaïe 24, regardez, c'était prédit par Ésaïe. Ésaïe 24, versets 21 et 22. « Il adviendra en ce jour-là que l'Éternel interviendra là-haut contre l'armée d'en haut et contre les rois de ce monde ici-bas sur la terre. On les rassemblera captifs, tous dans la fosse, ils seront enfermés à l'intérieur d'une prison. Après un temps très long, ils seront tous châtiés. » Wow! C'était prédit dans Ésaïe. Ésaïe 24, 21, 22. Ça, on a vu tout ça. J'essaie de m'avancer. Excusez, dans mon PowerPoint. OK, ça, on a vu tout ça. Qu'est-ce que l'abîme? C'est ça. Donc, on voit que c'est un endroit, un cachot, où Satan est envoyé pour 1000 ans. Revenons dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. Donc, au verset 3, il précipite dans l'abîme, fermant au-dessus de lui, en y mettant des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme de 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. C'est intéressant, ça. C'est quoi des trônes? Pourquoi des trônes? Pourquoi pas juste un trône? Bien, c'est que Jésus a dit à ses disciples, hein, on l'a vu il y a quelques semaines, que vous qui m'avez suivi, là, vous allez être assis sur des trônes pour juger avec moi. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Donc, je suis allé trop loin ici. OK, c'est beau. Donc ici, au début du règne millénaire de Christ, il y a un jugement, mais ce n'est pas un jugement pour condamner. C'est un jugement pour récompenser. Parce que qui se présente devant les trônes? C'est ceux qui sont morts pendant la tribulation, décapités, qui sont morts pour leur foi parce qu'ils n'avaient pas pris la marque de la bête sur le front ou sur la main. Et ils sont ressuscités et ils sont récompensés. Ils rentrent dans le millénium avec le Christ pour régner pendant 1000 ans avec lui. C'est ça qui est marqué. C'est la première résurrection de ceux qui ont traversé cette période-là. Nous qui sommes présents aujourd'hui, nous avons déjà été ressuscités, nous avons déjà rejoint le Christ dans les airs avant qu'il vienne combattre l'Antéchrist et régner pour 1000 ans. Donc ça, c'est clair. Paul dit que dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, que nous montons ceux qui sont morts en Christ en premier, et après nous, on monte direct et on rejoint le Christ qui revient pour combattre Satan et l'Antéchrist. Et ça, c'est déjà passé, là. Fait que quand il parle de la première résurrection, c'est la première résurrection depuis l'arrivée de Christ sur la terre. Mais il y a une deuxième résurrection à la fin des 1000 ans. Regardez. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Fait qu'au début des 1000 ans, première résurrection, ceux qui ont été martyrisés pendant la tribulation, sont ressuscités, sont récompensés et ils règnent pendant 1000 ans avec le Christ. Ils deviennent comme nous, ils ont un corps nouveau, comme nous, un corps éternel, et ils vont régner après ça éternellement avec Christ. Mais les autres, il y a une autre résurrection. Là, tu ne veux pas faire partie de cette résurrection-là. Ça, cette résurrection-là, c'est de tous les morts, de tous les temps, de tous les âges, de toutes les nations, tout le monde. Depuis que la terre existe. Regardez. Lorsque les 1000 ans sont écroulés, Satan est relâché de sa prison. Il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre. Il incite les nations à faire la guerre contre Israël. Et pour combattre, il rassemble tout le monde quasiment sur la terre, viennent attaquer Jérusalem. Mais ils sont foudroyés par le feu du ciel. Et là, le diable est jeté dans l'étang de feu et de soufre au verset 10. Ensuite, verset 11, « Je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. » Fait qu'au début du règne millénaire de Christ, la terre est restaurée à son origine. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de violence. Il y a encore la mort, mais c'est restauré. C'est restauré. Mais ici, là, c'est fini. C'est terminé. La première création, le ciel et la terre, s'enfuient et ils disparaissent complètement. Et qu'est-ce qui reste? C'est le grand trône blanc. Et tous les morts de tous les temps, de toutes les nations, sont rassemblés devant Dieu. C'est les morts. Ce n'est pas ceux-là qui ont été ressuscités lors de la venue de Christ, ceux qui croient en Christ à sa venue, ni ceux-là qui ressuscitent au début du millénium, là, ceux qui sont morts dans la tribulation, ce n'est pas ceux-là. Et ceux-là ne sont pas morts, sont vivants. Fait que si tu as cru en Christ avant la tribulation ou pendant la tribulation, tu es déjà vivant. Tu n'es plus mort, tu es ressuscité et tu ne rentreras pas dans le jugement. Celui qui croit en moi, Jésus dit, il est passé de la mort à la vie et il n'entrera pas dans le jugement. Alléluia! Mais ici, c'est la deuxième résurrection. Et ça, tu ne veux pas faire partie de ce gang-là. Pourquoi? Parce que là, c'est un jugement de condamnation. Il n'y a pas de revenez-y, là. Des livres sont ouverts et un autre livre est ouvert. Les gens sont jugés d'après les livres, pas le livre. Les livres, selon leurs actes, c'est ce qu'on a lu. Okay? Et après, c'est comme pour vérifier que c'est vrai, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. Mais il n'y a personne qui va être inscrit. Ça va être comme Dieu va juger selon vos actes, ils vont dire... Bien là, tu es coupable de ci, tu es coupable de ça, tu es coupable de ça, tu es coupable de ça, et tu mérites si. Attendez voir si tu as mis ta foi en Christ pour que lui porte ton jugement. Hop, non, ton nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau. Il est trop tard. Et la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. C'est le grand trône blanc, le jugement final de tous les temps. Et après ça, il arrive les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Chapitre 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est préparée pour son époux. Alors, là, c'est l'état éternel qui débute, le règne éternel de Christ. Donc, il faut faire la distinction. Là, il n'y aurait plus de péché, là. Là, ce n'est pas comme dans le millénium où il y a encore le péché parce qu'il y a encore des êtres humains non régénérés. Mais dans l'état éternel, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus rien de tout ça. Tout est renouvelé. Alors, si on a vu ça, désolé, mon PowerPoint, je ne l'ai pas suivi à mesure, mais les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront là pour l'éternité. Il y a des choses difficiles là-dedans. Il y a des choses troublantes. Il y a des choses qui pourraient nous faire angoisser. Là. C'est quand que Christ va revenir? C'est qui l'Antéchrist? Quand est-ce que ça va arriver? C'est quoi les souffrances qu'on va devoir traverser, etc.? Dieu ne nous a pas révélé ces choses-là pour nous rendre anxieux. Il nous a révélé ces choses-là pour nous donner une espérance. Christ va avoir la victoire. Oui, il va y avoir de la tribulation. Oui, il va y avoir des souffrances. Oui, peut-être qu'on va devoir mourir pour notre foi. Mais en fin de compte, là, c'est la résurrection. C'est la vie éternelle avec Christ. Amen. J'espère que ce matin, tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Si tu es en train d'écouter ce message et tu réalises que peut-être tu n'as jamais fléchi le genou devant Christ, c'est mieux de le faire maintenant. C'est mieux de le faire maintenant que d'attendre qu'il soit trop tard. Tout genou fléchira. Toute langue confessera, mais de force, que Christ est Seigneur. Mais de force, mais il sera trop tard. Et ceux qui auront mis leur confiance en Christ ont une perspective glorieuse devant eux, ont un avenir. Et c'est ça qui nous donne l'espérance à travers le désert, comme on voyait au début. C'est cette espérance-là que Dieu veut te donner ce matin. J'espère que par le Saint-Esprit, Dieu te comble de sa joie et de sa paix, par l'espérance qu'il veut te donner, que tu saisisses vraiment cette espérance-là. Vraiment que ça fasse partie intégrante de ta vie au quotidien. Au quotidien. Cette espérance-là, Paul dit, c'est comme un ancre pour notre âme. C'est un ancre. On a vu qu'un ancre, je ne sais pas si vous avez déjà compris pourquoi un ancre est toujours à la proue du bateau et non à la poupe en arrière. C'est parce que si tu mets l'ancre à l'arrière, le vent souffle, le bateau s'oriente à l'envers du vent, hein, comme ça, parce qu'elle est attachée par en arrière, et les vagues vont remplir le bateau. Vont remplir et ton bateau va couler. Fait que si ton espérance, mon frère, ma sœur, tu ne l'as pas mis en avant de vous, en avant de toi, tu n'y penses pas, tu l'oublies, ta barque va couler. Quand la tempête arrive, ta barque va couler. Paul dit, cette espérance-là est comme un ancre pour l'âme. Mets ton ancre en avant du bateau. Là, en avant du bateau, le vent souffle, qu'est-ce qui arrive? Le bateau s'enligne contre les vagues. Et les vagues ne rentrent pas dans le bateau. Et ton espérance va te faire passer les tempêtes. Amen. Amen. Nous avons une espérance qui est l'ancre pour l'âme. C'est primordial que cette espérance-là fasse partie de notre vie à tous les jours. À tous les jours, il y a des tempêtes. À tous les jours, il y a de l'adversité. Ça prend un ancre pour notre âme. Lève tes yeux, regarde ce qui vient. Regarde qui vient. Et c'est ça qui va terminer notre étude sur l'espérance. C'est la troisième section. C'est l'espérance de vivre une relation épanouie avec le Christ. C'est beau d'avoir un corps ressuscité, plein de force, imperméable à la maladie et à la mort et au péché. C'est beau d'hériter d'un royaume avec Christ. Qui veut pas ça? Mais en fin de compte, en bout de ligne, le plus merveilleux, c'est quoi? C'est Christ lui-même. Fait que dans la dernière section, on va regarder l'espérance d'avoir cette relation, d'être en présence de Dieu, réellement. Amen. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps en ta présence, en ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir éclairés par ta parole et ton esprit ce matin. Tu réponds à nos prières, Seigneur. Et vraiment, frères et sœurs, je vous encourage à prier que le Seigneur vous éclaire sur cette espérance, qui fasse descendre cette espérance. Oui, Seigneur, merci d'avoir fait ce travail ce matin dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs, pour nous donner, c'est ce que tu veux, Père. Tu veux nous donner cette espérance-là qui va faire qu'on va être dans la joie et dans la paix, par notre confiance en toi. Fais déborder même l'espérance de nos cœurs pour que les gens nous demandent pourquoi t'es joyeux, pourquoi t'es en paix. Fais déborder cette espérance dans nos cœurs, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint et pour la gloire du Christ, roi des rois, Seigneur du Seigneur, l'étoile du matin qui vient, le soleil levant, Jésus notre Sauveur. Amen. Robert?